Alors, je présente Guy Rocher à notre auditoire, mais bien sûr, on le connaît beaucoup, sociologue, professeur, conférencier, chercheur au Centre de recherche en droit public à l'Université de Montréal, membre de la commission parents, et c'est bien là le drame, et c'est sur ça qu'on va l'attaquer au départ. Mais parlons à Christian Rioux, journaliste, chroniqueur politique, correspondant du Devoir à Paris. Bonjour Christian Rioux.
Bonjour Monsieur de Bigot.
Alors je lis... Bonjour. Je lis la phrase, cette semaine, le ministre de l'Éducation a présenté sa charte de la laïcité pour les écoles afin de véhiculer une vision plus inclusive de la laïcité. Et on ne parle pas d'un ministre québécois, là. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous?
Non, on parle de Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale en France. En fait, le ministre a voulu faire la rentrée scolaire avec une charte de laïcité, mais qui ici n'est pas un texte législatif. Là, il s'agit en fait plutôt d'un résumé des règles classiques, des règles communément admises en France, là, de la laïcité et son application à l'école, donc un résumé qui va être affiché dans toutes les écoles publiques de France, un résumé qui rappelle à la fois les vieilles règles de la laïcité française, hein. La laïcité en France, ça date de la Révolution française, première séparation d'Église et de l'État, on donne la citoyenneté aux Juifs, école publique gratuite, laïque et obligatoire en 1880 et en 1905, la Grande Loi, et après 2004, la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Il n'y avait pas eu pendant presque 100 ans de nouvelles lois sur la laïcité en France. Et là, on a décidé d'interdire tous les signes religieux à l'école. Et là, cette charte, dans le fond, résume un peu les règles simples de laïcité. Elle va être affichée partout en France, dans les écoles, à l'entrée des écoles, à côté de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
On nous reproche un peu de parler toujours de la France comme point de comparaison. Parlez-nous donc un peu de la Belgique et de l'Allemagne et de l'Ontario.
Oui, ben écoutez, la France n'est pas le seul pays qui parle la laïcité, même si c'est probablement le pays qui a commencé à en parler, qui a probablement même inventé le mot laïcité, vous savez, qui est très difficile à traduire dans certaines langues, et notamment en anglais, où on parle plutôt de sécularisme, et là, ça veut généralement évoquer beaucoup d'autres choses, la laïcité qui concerne l'État, parce que la laïcité, ça concerne d'abord et essentiellement l'État. Ça concerne pas directement la société civile, on demande pas aux gens dans la société civile d'être des laïcs ou de ne pas porter de signes religieux. Mais on peut demander, l'État peut demander à ses fonctionnaires, à des enseignants, au public et aux parapublics, de ne pas porter de signes religieux. Et donc, cette laïcité française, je dirais qu'elle a, d'une certaine façon, essaimé un peu partout. En Allemagne, par exemple, il y a 8 Länder allemands où on interdit le port de signes religieux aux enseignants, parce qu'on considère que l'école est un lieu particulier, un lieu qu'il faut protéger de toutes les formes de prosélytisme, hein, même le prosélytisme anti-religieux.
Même le prosélytisme, oui, ou anti-religieux, ou même le prosélytisme apparent, pas absolument nécessairement le verbalisé.
Absolument, absolument. C'est le cas en Belgique aussi. Évidemment, chaque pays a son cocktail de règlements. Là, il n'y a pas un pays où on applique la laïcité française intégralement. On prend des mesures et on fait en fonction de la réalité locale. En Belgique, il y a à peu près 80-90% des écoles qui font la même chose aussi. En Suisse aussi, il y a un grand nombre d'écoles qui font la même chose. Denise Boucher parlait de l'exemple de la Turquie. La Turquie est un pays extrêmement laïque. Et allons même jusqu'au Mexique. Hein. Le Mexique est probablement le pays le plus laïque d'Amérique latine. Et le Mexique, les laïcs en général évoquent très souvent la laïcité française, pas pour l'appliquer de façon intégrale, mais parce que ça reste une forme d'inspiration.
Ben, Christian Rioux, est-ce que dans tous ces pays dont vous venez de parler, cela a déclenché ou ça déclenche, ou est-ce qu'il faut passer par des semaines comme celles que l'on vient de vivre au Québec?
Évidemment, ça déclenche des débats. Moi, j'ai vécu le débat de 2004 en France. Vous savez, la laïcité en France, dans les années 70, dans les années 80, c'était quelque chose qui avait l'air quasiment ringard. Hein? Ça avait l'air un peu... rappelons-nous, les années 70-80, les pays occidentaux en général étaient en voie de sécularisation rapide. On n'imaginait pas le retour du religieux. C'était quelque chose qui ne semblait pas du tout évident. Or, en France, ben, et puis ailleurs, dans les années 90, dans les années 2000, on a vu un certain retour du prosélytisme, en l'occurrence, là, musulman, dans ce cas-là, le retour du voile, hein, des Arabes, des musulmans en France, il y en avait depuis très très longtemps, depuis des décennies, mais les femmes ne portaient pas le voile, et tout à coup, la question du voile a surgi. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que la loi de 2004 que les Français ont votée, où on interdit le port de signes religieux dans toutes les écoles, primaires, secondaires, lycées, cette loi-là, elle a été demandée d'abord et avant tout par des enseignants. Des enseignants, les professeurs qui avaient des problèmes avec des familles qui voulaient pas que leurs enfants suivent les cours d'éducation physique, par exemple, aillent à la piscine, suivent les cours sur la Shoah, suivent les cours sur le conflit israélo-palestinien. Et c'est les enseignants qui ont demandé d'abord à Lionel Jospin, qui a fait une directive, mais qui a rien interdit. Ensuite, à François Bayrou, qui a fait une directive aussi, mais qui a rien interdit. Et finalement, c'est Jacques Chirac qui a dit, ben, écoutez, peut-être qu'il va falloir prendre une mesure importante pour répondre à ces demandes-là. Et c'est là qu'en 2004, on a interdit le port de signes religieux. On a élargi, je dirais, une idée, cette conception-là de l'État, là, parce que ça ne s'appliquait qu'à l'État. On l'a élargi un peu pour l'appliquer, dans le fond, à l'ensemble de l'école.
J'ai dit tout à l'heure, l'Allemagne, la Belgique, l'Ontario. Il y a un fait que vous rapportez sur l'Ontario. Pourriez-vous le dire en quelques secondes?
Oui, j'ai été frappé cet été de voir que le tribunal des droits de la personne en Ontario avait rendu un jugement parce que dans une école de Niagara, dans une commission scolaire de Niagara, en fait, où on a traditionnellement les Gédéons distribuaient une Bible à tous les finissants de cinquième année, eh bien, c'est un Québécois, mais en tout cas, il a un nom français, il y a un parent qui s'est objecté en disant, moi, je devrais avoir le droit aussi de distribuer ma propagande athée. La commission scolaire a refusé parce que les athées, évidemment, n'étaient pas listés dans la liste des...
religions
admises en Ontario, évidemment. Et donc, il est allé devant la commission des droits de la personne, et là, il a obtenu gain de cause, mais il a obtenu gain de cause de façon tellement étrange. Vous voyez, là, la différence, là, l'absence de pensée laïque, là, on va l'autoriser à distribuer sa propagande athée. Donc, il y aura les bibles de distribuer, il y aura les scientologues pourront distribuer leurs trucs aussi.
Mais les athées aussi.
Considérés comme une religion.
Alors, est-ce que c'est une avancée? On ne sait pas. Christian Rioux, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez rester là si vous voulez écouter M. Rocher, mais je vous remercie beaucoup de toutes ces informations.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Merci. Donc, M. Rocher, qui était en 1960 et 61, 62, 63, avec ses communistes de Gérin-Lajoie et de Monseigneur Parent en train de bouleverser notre système d'éducation. Et je dis, tout est de votre faute, M. Rocher, parce que vous auriez dû compléter et terminer cette affaire-là dans ces années-là.
Je plaide coupable, nous aurions dû terminer, c'est vrai. C'est toujours en marche. À mon avis, la Révolution tranquille, elle a commencé en 60, mais elle se poursuit encore en 2013, puis on va l'avoir encore pendant longtemps dans notre vie individuelle et collective. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à poser les termes de la neutralité de l'État, en particulier, parmi d'autres choses. Mais il y a plusieurs textes dans le rapport Parent, parfois quand j'ai à le lire par la force des choses, où nous évoquions la neutralité de l'État. Oui. La neutralité de la commission Parent en particulier. Bien que Monseigneur Parent était le président comme prêtre, oui, bien qu'on avait une religieuse forte, intelligente, qui faisait partie de la commission, nous avons dit notre commission est une commission neutre. Nos convictions religieuses ne font pas partie de notre mandat.
Et Monseigneur Parent et la sœur, qu'est-ce qu'ils ont dit?
Oh, complètement d'accord. Non, il n'y avait aucune dissension à cet égard-là. Oui. Et aujourd'hui, nous fêtons les 50 ans du ministère de l'Éducation.
C'est vrai.
C'est-à-dire de la création du ministère de l'Éducation par la Commission Parent. Or, le ministère de l'Éducation a été créé comme neutre, non catholique, non protestant non plus. Et ça, c'était la suite d'une réflexion que nous faisions. Et pourquoi? Parce que je pense qu'il faut revoir le contexte de l'époque. Nous découvrions en 1963, 64, que les Canadiens français, comme on les appelait à l'époque, n'étaient plus une communauté catholique homogène.
Oui.
Il y avait maintenant des Canadiens français qui se disaient athées, officiellement. Il y en avait toujours eu, mais tout à coup, ils sont sortis sur la scène publique.
Parce que c'était pas facile de sortir en 59, hein?
Non, pas sous Duplessis, d'abord.
Et sous le cardinal Villeneuve.
Le cardinal Léger. Mais, voyez-vous, le mouvement laïque de langue française a été créé à peu près en même temps que la Commission Parent en 1960, en septembre 1960.
Oui.
Et ça a fait un grand bruit à l'époque.
Oui.
Là, le mouvement laïque de langue française affirmait qu'il y avait au Québec des non-croyants, des parents non-croyants qui étaient mal à l'aise dans les écoles catholiques.
Mm-hmm.
Et qui réclamait la création d'un réseau d'écoles neutres parallèles aux écoles catholiques. Le mouvement laïque de langue française n'était pas opposé aux écoles confessionnelles. Il les respectait, mais il disait, comme il faut respecter les croyants, il faut aussi respecter les non-croyants.
Mmh.
Créons donc un réseau neutre. Ce qui est extraordinaire dans l'histoire du Québec, c'est que ce réseau d'écoles neutres publiques n'a jamais été créé.
Oui.
Et pas parce qu'on
s'y est
opposé.
Est-ce que c'est là que je dois vous faire le reproche?
Non, parce que pourquoi? Ce qui est arrivé, c'est qu'on n'en a plus eu besoin. Tout à coup, le changement s'est fait presque de lui-même, dans le courant de l'époque, dans la libération des esprits, Vatican II, entre autres, et puis...
Puis les bouleversements des années 60, la Californie, la musique, la sexualité, la pilule et tout.
Ouais, exactement
oui,
ça.
Oui,
hein.
oui.
Et donc, les écoles catholiques, En fait, n'était plus catholique dans les faits, oui. Si bien que des parents non catholiques étaient à l'aise dans ces écoles-là avec leurs enfants. Et c'est ainsi que l'école catholique est devenue progressivement une école neutre, sans être définie juridiquement comme telle.
Et alors, cette définition du juridique, c'est ce qui est nécessaire maintenant, d'après vous?
Pardon?
Cette définition juridique de la neutralité, c'est ça qu'il faut?
Ben, je pense que c'est temps, en effet, parce que voyez-vous, ce qui s'est passé depuis quelques années a profité, on a profité du vide légal et juridique.
Oui.
Bon, il y a eu des jugements. Le problème, c'est que ce sont les tribunaux qui décident pour nous. Les tribunaux n'ont rien de démocratique.
Oui.
Moi, je pense qu'il faut maintenant que ce soit la société qui, par une véritable législation, décide de son choix de société.
C'est ce qui se passe en ce moment, vous convient, vous?
Ben oui, moi, je trouve que c'est le temps. J'ai beaucoup d'admiration pour le Parti québécois qui, indépendamment de toute politique, qui a décidé de faire une charte, de présenter un projet de charte qui va dans le sens d'une laïcité véritable, et non pas d'une vérité à moitié.
Oui.
Parce que une vérité à moitié, une neutralité à moitié, pour moi, c'est pas de neutralité.
Oui.
Une neutralité à moitié, ce sont des compromis et des accommodements. Ça s'appelle comme ça, à mon avis. Ça s'appelle plus neutralité.
Oui.
La neutralité ouverte, boum, à mes yeux, ce n'est plus de la neutralité. Quand l'État est obligé d'accepter des représentations, d'accepter que le Coran ou la Bible est une autorité pour lui, il n'est plus neutre. Moi, je trouve qu'en ce moment, c'est ça qu'on demande à l'État. Accepter que ce que dit le Coran, aux yeux de certains, pas de tout, ce que dit le Coran, pour nous, c'est ça que l'État doit respecter. L'État n'a pas à respecter, à mon avis, les livres saints.
Mais là, on a un problème. J'écoute M. Bouchard, qui est un sociologue comme vous. Vous
oui.
Vous en sentez pas entre sociologues?
Nous entendons jamais entre sociologues. Heureusement, il y a plusieurs écoles, c'est depuis les origines de la sociologie.
Il a parlé, il dit, il n'y a pas de motif supérieur. Il a employé cette expression, et pourtant, moi je me dis, au contraire, il y a un motif supérieur, le motif supérieur étant que nous sommes une société de raison et non de croyance et de foi et de superstition, et c'est ça le motif supérieur que doit affirmer. Là, ils m'ont dit, Guy Rocher va te calmer. Est-ce que j'ai tort d'aller jusque-là?
Je n'ai rien d'un calmant.
Mais je me dis que,
à mon avis, le motif supérieur, c'est comme ça l'a été depuis 50 ans au Québec, le respect des convictions religieuses de toutes les clientèles. En ce moment, on est en train d'inverser la chose.
Voilà.
Là, on demande de respecter les convictions religieuses du personnel des institutions publiques. Maintenant, le respect des convictions du professeur, c'est plus important que le respect des convictions des parents et des élèves. Voilà l'inversion dans laquelle nous vivons.
Oui.
Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Parce que, moi, j'ai une perspective collective.
Oui.
Je crois que c'est ça qui est important. La collectivité des clientèles qui se présentent à nous. Dans une école, dans une université. Moi, je fais affaire à une clientèle très diverse à l'université. Intellectuellement, pas seulement religieusement, mais intellectuellement, de toutes orientations. Nous ne sommes pas d'accord entre sociologues. Donc, j'ai mon école de sociologie que je présente, mais je respecte les autres écoles de pensée qui sont dans ma salle.
Alors, quand on dit, et c'est là que je disais ça avec Mme Boucher tout à l'heure, quand on dit que on va, prenons le cas des femmes musulmanes avec le voile, on va exclure des gens. Et moi, je dis, c'est le contraire. Prenons-le à l'envers, ce problème-là. On va, au contraire, inclure des gens qui ne seront pas obligés pour des raisons ne sont pas toujours bonnes, parce que des fois c'est obligé, des fois ça ne l'est pas, qui vont pouvoir intégrer la société et non pas rester en parallèle de la société. Alors j'exagère encore? Calmez-moi, je vous en prie.
Non, je pense que ce qui est intéressant dans l'exclusion, c'est que des gens ont le droit de s'exclure eux-mêmes.
Oui.
Personnellement, je crois que quand on fait un choix religieux radical...
Prenons l'exemple des Juifs hassidiques d'Outre-mer.
Exactement. Ouais. Quand on fait un choix radical, on doit en accepter les conséquences. Moi, je crois que ce n'est pas à l'État d'accepter les conséquences des choix que font des religieux radicaux.
Mm-hmm.
Quand des hommes et des femmes entrent, par exemple, dans une communauté religieuse catholique, qu'ils deviennent une sœur ou un frère ou un prêtre, ils acceptent les conséquences de ce que c'est que d'être un prêtre. Quand on porte une option religieuse particulière, je crois qu'il faut en accepter les conséquences. Et une des conséquences, quand on porte le voile, une des conséquences, c'est qu'on ne peut pas porter ce voile quand on est dans une fonction publique. Mm-hmm. C'est ça la conséquence. Bon, si on assume son choix, eh bien, on ne se présente pas dans une fonction publique. On va dans le secteur privé. Le secteur privé reçoit tous ceux et celles qui veulent affirmer leur foi religieuse, que ce soit une pharmacie ou n'importe quelle.
On a dit cette semaine que le pauvre René Lévesque était trahi, qu'il se retournait dans sa tombe. René doit faire des tours sans arrêt avec tous les gens qui disent qu'il se retourne dans sa tombe. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre semaine québécoise, vous, sociologue, observateur de vos concitoyens?
Quand j'entends les libéraux, Justin Trudeau ou Dr. Couillard, dire que c'est qu'ils sont les porteurs de l'héritage de René Lévesque, eh bien, je fais de l'asthme. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Quand je pense que ce Parti libéral n'a pas voté la loi 101, que ce Parti libéral a dénigré la loi 101 au moment où on l'a présentée, j'étais là, j'étais à côté de Camille Lorrain, j'étais à côté de René Lévesque, j'ai vu les colères de Camille Lorrain, sourdes, bien sûr, hein, ne les manifestait pas.
Même au poker. Et je
lisais tous les jours les journaux, j'entendais à la radio. Non, les libéraux n'ont pas le droit de parler de l'héritage de René Lévesque, il ne leur appartient pas.
Oui.
Ça, je trouve, c'est malhonnête. Moi, je trouve que c'est même stupide de leur part. J'ose pas de dire, mais j'irai plus loin encore. C'est diabolique.
Oui, oui. Ah ben là, c'est moi qui vais être obligé de vous calmer.
C'est là qu'il est, le diable.
Monsieur Rocher, Christian Rioux, puisque vous avez écouté Guy Rocher, qu'est-ce que vous pensez de notre semaine québécoise en terminant?
Écoutez, ça m'a vraiment surpris, je dirais. Ce qui m'a le plus étonné, c'est la hargne dans ce débat-là. Je suis les débats sur ces questions-là depuis longtemps en Europe. Je suis le débat québécois aussi. Ce que je voudrais dire, c'est que toutes les sociétés ont le droit d'avoir ce débat-là. C'est un débat qui se produit partout aujourd'hui. Il se produit en France. Évidemment, on y entend parfois des propos extrêmes. Il y a un Front national en France, mais le Parti socialiste est laïque et c'est lui qui a publié la Charte de la laïcité en France. Ça se produit en Belgique, ça se produit en Allemagne. Toutes les sociétés modernes sont confrontées à ces problèmes-là. Et les sociétés ont le droit. Ont le droit de débattre de ça, ont le droit de choisir leur propre type de laïcité, celle qui convient à leur situation, à leur contexte. Et c'est ce droit, des fois, j'ai l'impression qu'on nous nie au Québec, à nous.
Mmh. Christian Rioux, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse, mesdames, messieurs, et je laisse même notre invité sur ses paroles de lui-même en 2009. Il faut des balises claires pour ceux qui administrent les institutions publiques. Je ne crois qu'en une sorte de laïcité que malheureusement le rapport appelle rigide ou sévère. L'utilisation d'adjectifs n'est jamais innocente. J'espère que les autorités un jour, quand la lumière se fera à Québec, établiront clairement la laïcité de l'État québécois. C'est en 2009 un discours sur la laïcité de M. Guy Rocher. Merci beaucoup.
Je me reconnais.
Hein. Vous reconnaissez, mais en même temps, vous allez devoir vous assumer parce que vous allez donner des conférences.
Ah, mon Dieu.
Ah oui, attendez, il faut
et
que je le dise.
Je continue.
Oui, bah, écoutez, je vais trouver mon papier parce que là, je l'ai perdu, je l'ai échappé. Et je vous remercie beaucoup.